fête, la fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais fait.
Bonjour à toutes et à tous. Les orages ont été violents chez nous cette nuit. L'alerte orange a été levée vers 3h du matin. Les vents violents ont fait des dégâts. Sarah Tuchérer, on fait le point avec vous.
On commence par le Tarn-et-Garonne où un garçon de 12 ans est mort dans la soirée d'hier au nord de Montauban. L'enfant a été tué par la chute d'un arbre au niveau du gué de Pic-Écosse. Il se trouvait sur les berges de l'Aveyron. L'arbre l'a emporté dans sa chute dans la rivière. Sur place, les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer. Trois autres personnes étaient présentes avec lui sur les berges. Elles ont été transportées à l'hôpital de Montauban. Les orages ont aussi causé des dégâts matériels. Dans le Tarn-et-Garonne, les secours ont mené une vingtaine d'interventions. Les pompiers du Gers sont intervenus près de 120 fois dans les secteurs au sud d'Auch et à l'est vers Mauvezin. La Haute-Garonne a été plus épargnée avec une trentaine d'interventions.
Au total, 100 000 foyers ont été coupés d'électricité en France cette nuit. On refait le point chez nous dans le prochain journal à 9h. Les pompiers de la Haute-Garonne sont aussi mobilisés en ce moment à Saint-Thomas, à l'ouest de Toulouse. Ils tentent d'éteindre depuis 3h du matin un feu de maison. Une femme de 85 ans a été évacuée avec de graves brûlures dans la nuit vers un hôpital toulousain. L'actualité, c'est aussi les tensions qui se poursuivent autour de l'autoroute Castres-Toulouse dans la nuit de mardi à mercredi. Hier, dans le Tarn, une entreprise opposée au projet a été victime de dégradation. L'atelier textile Miss Aigle a découvert des tags « Oui à la 69 » sur ses panneaux publicitaires. Des pancartes ont aussi été affichées par les pros sur plusieurs ronds-points du Tarn avec le nom d'une dizaine d'opposants. Certains d'entre eux ont subi des intimidations, des jets de peinture rouge à leur domicile. Au moins deux plaintes ont été déposées auprès du procureur de Castres. Ces intimidations interviennent alors que les députés et sénateurs veulent faire entrer la 69 dans la loi. Hier, la proposition de loi de validation a été acceptée en commission mixte paritaire. C'est la première étape. Le texte doit maintenant être voté au Sénat et à l'Assemblée nationale. S'il était adopté, il permettrait aux concessionnaires Atosca et à l'État de reprendre le projet d'autoroute Castres-Toulouse malgré son annulation par le tribunal administratif de Toulouse. On parle beaucoup de la 69, mais voilà un autre dossier qui va nous occuper, la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Elle va coûter au moins 14 milliards d'euros. Et au début du mois, une note interne du ministère des Finances a fuité. Selon celle-ci, l'État, qui finance presque la moitié des travaux, pourrait se désengager. On reparlera de cette ligne ferroviaire à 8h moins le quart avec notre invité Christophe Huot. Il est le directeur du GEPSO, l'organisme qui chapeaute le projet. Le changement climatique est réel et le département de la Haute-Garonne veut anticiper. Hier, le président du département a présenté la feuille de route sur la bifurcation écologique des 5 prochaines années. On fonce dans le mur du changement climatique, alerte Sébastien Vincini. Un constat partagé, Sandrine Morin, par le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité.
Un constat fait par les scientifiques du CEREMA, l'organisme public qui travaille sur les enjeux du développement durable. Un constat implacable. D'ici 2050, la température va augmenter de 2,5 degrés en Haute-Garonne, 2,8 même dans les Pyrénées. Du côté du fleuve, la Garonne, ce sera 60% de débit en moins l'été. Et plus concret encore, dans notre vie, 8% des habitations seront soumises au risque d'inondation, 54% des maisons soumises même aux fissures qui les fragilisent. Pour le CEREMA, pas de doute, d'ici 25 ans, les conséquences de ce réchauffement seront visibles partout dans le département.
Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, le département compte adopter des mesures pour faire face au réchauffement climatique.
Avec un chiffre affiché déjà, la collectivité vise notamment une réduction de 26% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça passe par 60 mesures concrètes. On peut en citer une dont est très fier le président Vincini, la voirie, les routes bas carbone du département, avec un enrobé constitué de gravier recyclé et de liants végétaux. Une innovation qui a permis de diviser par deux l'empreinte carbone sur un secteur historiquement très peu loin. Un choix à 8 millions d'euros.
Le département de la Haute-Garonne va aussi travailler sur les collèges du département, sur l'exemple du collège Palais-Fiquette ouvert en septembre dernier. L'écologie, c'est peut-être aussi ce qui vous pousse à partir moins loin en vacances. Il faut dire qu'entre les Pyrénées et les Gorges de l'Aveyron, on a déjà de quoi faire. Les vacanciers viennent d'ailleurs de plus en plus chez nous. En Haute-Garonne, le comité département départementale du tourisme enregistre une hausse de 6% des réservations. Les précisions de Loïc Gojard, président de Haute-Garonne Tourisme.
L'été s'annonce bien, les réservations, nous, sur la centrale de réservation qu'on a au sein d'Haute-Garonne Tourisme, elles sont en progression, que ce soit en nombre, mais aussi sur le panier moyen. Donc on est à plus 6%, avec 60% des réservations pour le mois d'août et 40% pour le mois de juillet, avec des tendances qu'on avait déjà l'année dernière et qui se confirment cette année, c'est-à-dire avec des réservations très anticipées pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi avec de la réservation de dernière minute qui continue à exister. La tendance aussi qui est là depuis plusieurs années, c'est on a de plus en plus de séjours plus courts, 3, 4 jours. Donc du coup, ça nécessite une adaptation de la part des hébergeurs, des personnes qui proposent des activités aussi, parce que c'est pas la même chose d'accueillir une famille pendant une semaine ou deux semaines dans le même hébergement que d'en accueillir 2 ou 3 sur une semaine.
Des touristes qui viennent majoritairement de la partie ouest de la France, de la Vendée à Bordeaux, mais aussi pas mal de la région parisienne. Côté destination, notre concurrent principal, c'est l'Espagne. La Costa Brava arrive en tête des réservations en France. La finale de Top 14, c'est dans 2 jours et vous prêtez peut-être au petit jeu des pronostics. Toulouse rêve d'un 24e Brennus, le 3e d'affilée. L'UBB, nouveau champion d'Europe de son premier, mais dans tous les cas, le bouclier restera en Haute-Garonne. Pourquoi ? Eh bien, grâce à un troisième ligne qui est né et qui a tout appris chez nous, Rémi Doutre.
Bastien Vergne-Taillefer, 25 matchs pour lui cette saison, largement installé dans la rotation de Yannick Bru. Un pur Haut-Garonnais qui débarque à 9 ans au club de rugby d'Hauterive, au sud de Toulouse. Ça rappelle son entraîneur de l'époque, Jean-Luc Portolan.
Bastien est venu mardi soir à l'entraînement. On a échaîné le samedi, justement le premier pas à la barre. Il s'est très bien passé, on avait compris déjà que ça allait faire un bon joueur de rugby.
À un âge où la plupart des gamins jouent avec les paquerettes ou les vers de terre, lui se démarque de ses coéquipiers.
Il respirait rugby, il avait tout compris, quoi. Très 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 poli, à l'écoute de ses éducateurs.
5 ans plus tard, Bastien Vergne-Taillefer rejoint Colomiers, où il franchit les catégories jeune jusqu'à la Pro D2. 9 ans au club avant de partir pour Bordeaux en 2021, mais sans oublier Hauterive.
Il est revenu voir quelques matchs. Moi, j'ai pas eu l'honneur de le recroiser. On s'est recroisé à une manifestation canine parce qu'il est chasseur aussi.
Pas étonnant alors de le voir traquer ses adversaires. 28 ans, champion d'Europe cette saison, Vergne-Taillefer vise le doublé avec Bordeaux, quitte à faire hésiter son ancien entraîneur, pourtant cousin des grands Claude et Gérard Portolan, emblématique pilier du Stade Toulousain.
Que le meilleur gagne, quoi. Je suis Toulousain, mais bon, je vais avoir un œil sur lui quand même, quoi. Il le mérite vraiment, et puis bon, pour le gamin, ça me permet de l'appeler encore le gamin, quoi.
Un gamin 2m94 pour 114 kilos à la chasse au bouclier de Brennus.
Stade Toulousain, UBB, on vous fait vivre la finale ce samedi dès 20h sur votre radio, ici Occitanie. Un petit mot aussi sur la compo de l'UBB. L'ailier Louis Biel-Biarret, meilleur joueur du dernier tournoi Destination, devrait bien jouer la finale alors qu'il était incertain à cause d'une commotion.
En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
How wonderful life is when you're in the world. The sun.
signores, lipstick para signoras, lipstick für die Männer, lipstick für die Frauen, lipstick per signore, lipstick per donne, lipstick la tête. Nette vahine, lipstick la panna, lipstick la panina, lipstick miele, lipstick la isile, lipstick, lipstick.
Vous écoutez.
Il te reste une flamme calée au fond de toi.
Tu effaceras les larmes qui mouillent tes yeux parfois. Tant qu'il te reste un rire vivant sur ton visage, tu pourras toujours écrire des milliers d'autres pages.
Si tu sens que le jour vient, tu seras la seule étoile pour voir venir un horizon pour ton avenir.
Il te reste les mots que t'as bien voulu garder. Tu traverseras le mur tôt, la tête baissée, les yeux fermés. Tant qu'il te reste l'amour.
Knows what she wants to be inside.
écoutez ici.
Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi, on s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi,
on se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi,
la guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi,
pourvu qu'on reste. Les meilleurs ennemis du monde, et tant pis si on est. Le mariage du ciel et de l'ombre, je te hais. On s'y perd.
C'est toi contre moi,
on se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi,
la guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi,
pourvu qu'on reste.
Le détour quand tu prends de l'avance,
ennemi.
Un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. We'll be right back.
danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poteurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hey.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Dr. B, huh, that's me.
So I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. We'll be right back.
to cope, and love and hope is why I am here now.
ICI.
Vous écoutez ICI.
ICI.
Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassé. Faites-vous être remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Ce matin, on va sur Internet, dans la récré des Pitchouns, on parle d'une règle européenne qui entre en vigueur aujourd'hui. Tous les sites de e-commerce, les sites de commerce en ligne, doivent être accessibles à tout le monde. On va en parler, mais d'abord, on va sur Internet avec les CM2 de l'école de Cessal, dans le Lauragais, qui ont bien conscience qu'il faut faire attention en ligne, notamment sur certains sites. Arthur, Roman, Sana, et Nora et Auguste. Alors, on fait attention à quoi sur Internet ?
Les sites internet un peu, enfin, pour les adultes, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est vrai, il y a des gens, ils se montrent à poil et tout, c'est hyper gênant.
Aussi, il faut faire attention aux défis, les défis sur internet. La maîtresse, elle nous a dit, il y a un défi où c'est, tu mets un caillou sur la pédale de ta voiture, la voiture, elle part, et elle a la porte ouverte, et toi, tu cours à côté, et tu essayes de remonter dedans.
Et il faut aussi faire attention aux jeux en ligne, parce qu'il y a des inconnus. Il peut aussi y avoir des gens qui se passent pour des enfants.
Tes parents, ils peuvent mettre un contrôle parental, où ils surveillent ce que tu regardes, et ils peuvent mettre une sorte de blocage des applications.
Et surtout aussi, tu dois regarder, par exemple, quand il y a des moins 18 ans, moins 10 ans et tout.
Alors, vous avez raison de parler de ces sites internet pour adultes, les enfants. Ces sites pornographiques sont dans le viseur du gouvernement français depuis mars dernier. Les sites doivent vérifier l'âge des utilisateurs qui doivent être majeurs, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans. Vous avez raison. Ça veut dire que ces sites demandent dorénavant une photo de la carte d'identité. Mais certains de ces contenus basés en Europe sont toujours accessibles sans contrôle d'identité. Pourtant, ce contrôle, c'est pour vous protéger, les enfants. Vous pouvez tomber effectivement sur des images choquantes qui souvent ne correspondent pas à la réalité. L'autre problème dans ces vidéos, c'est aussi le consentement. Le fait d'être d'accord avec une relation n'est pas toujours donné. Pourtant, c'est la première condition pour avoir un rapport intime avec une autre personne. Vous parlez aussi des défis qu'on retrouve notamment sur le réseau TikTok. Vous faites bien d'en parler. Ces vidéos virales sont mises en avant par l'algorithme. C'est les vidéos que vous voyez en premier. Ça pousse les gens à faire des choses extrêmes. Encore une fois, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Donc, si vous comprenez pas une vidéo ou si vous vous sentez isolé, vous pouvez en parler avec des adultes autour de vous, des parents, enfin vos parents, vos frères et sœurs ou même vos professeurs à l'école. Est-ce qu'il y a des gens mal intentionnés qui peuvent vous contacter ? Eh bien oui, malheureusement, ça existe. Certaines personnes se font passer pour des enfants pour tendre des pièges. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous contacte sur les réseaux sociaux, vous pouvez encore une fois en parler à un adulte. Il existe aussi des signalements sur les réseaux sociaux. Mais en théorie, vous n'avez pas le droit de vous inscrire sur ces réseaux avant 15 ans. C'est en théorie hein, parce que ça, c'est pas encore mis... c'est pas encore appliqué dans la pratique. Vous avez raison, les pitchouns, il existe aussi un contrôle parental. Ça permet à vos parents, non pas de vous espionner, mais de surveiller le temps d'utilisation des écrans. C'est aussi bien pratique pour surveiller les gens qui vous contactent et éventuellement bloquer les sites qu'on juge dangereux pour vous.
En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Votre jeu de midi, c'est ici, avec Éric Bastien et Valérie Damido.
Absolument, il n'y a pas de souci.
C'est ça, voilà, nous on a des auditeurs. Ouais, c'est comme la radio aussi, ouais. La bienveillance,
trop bien.
La gentillesse, l'esprit d'équipe. On est aux Jeux Olympiques, on est au
ici,
taquet.
Ici, à midi, on est au taquet. Ici, Occitanie.
Le réveil 100% local.
Ici, matin.
Bienvenue dans le quart d'heure toulousain. On parle ligne à grande vitesse ce matin avec la 69. C'est l'autre gros projet structurant et polémique dans le sud-ouest. Les travaux de la LGV ont débuté en 2024. C'est un projet qui avance. On reçoit ce matin le directeur de l'agence GEPSO, structure de SNCF Réseau, qui chapeaute ce gros dossier à 14 milliards d'euros. Bonjour Christophe Huot.
Bonjour.
Ce projet de ligne LGV Bordeaux-Toulouse, il est complexe. Le chantier a commencé début 2024, on le disait. On en est où exactement ?
Alors, ce projet, il comprend plusieurs composantes. Vous avez des travaux de créant des lignes, des voies nouvelles au droit des agglomérations de Bordeaux et Toulouse. Et donc, les chantiers sont en cours et se déroulent tout à fait normalement, en respectant les délais prévus. Et puis, on aura engagé d'ici 2-3 ans des travaux pour la réalisation de la section à grande vitesse. Donc, ce sera une nouvelle étape de travaux qui seront engagés à cet horizon.
Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas vraiment commencé les travaux sur les voies. Ce sont juste des aménagements, ce que vous disiez.
On construit des voies nouvelles au droit des voies existantes, en sortie de Toulouse vers Saint-Jory. Idem côté Bordeaux. Par contre, la section proprement dite à grande vitesse, elle ne démarrera que dans 2-3 ans.
Pour vous pouvez nous rappeler la date de la livraison du chantier annoncé.
Alors, toutes ces composantes de la LNSO, elles seront terminées à l'horizon de 2032 pour pouvoir être mises à disposition des voyageurs.
Dans quelques semaines, vous allez lancer la consultation pour la demande des premières autorisations environnementales. Ça veut dire que les habitants vont pouvoir donner leur avis, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Il y a une concertation publique qui sera engagée au second semestre par voie électronique sur un certain nombre d'investigations préalables qu'on souhaite engager. Ce sont concrètement des sondages géotechniques pour mesurer les capacités des sols et puis d'autre part de l'archéologie préventive qu'on souhaite mener à partir de l'année prochaine.
Ça veut dire que concrètement, vous allez demander avec les habitants qui sont sur le tracé s'ils sont d'accord avec ces études, ces travaux ?
Oui, nous présentons un dossier à la fois à l'administration, à la fois à l'autorité environnementale, et puis au grand public. Et évidemment, la population peut formuler tous ses commentaires, remarques, critiques sur le dossier qui lui sera soumis.
Et dans quelle mesure ces avis vont être pris en compte ?
On essaiera naturellement d'y répondre pour toutes les questions qui nous semblent bien fondées et permettent une amélioration du projet.
Alors Christophe Huot, cette LGV, elle rencontre aussi beaucoup d'opposition, notamment auprès des collectifs de protection de l'environnement. La question qui se pose donc, c'est est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine ? 14 milliards d'euros, ça fait gagner combien de temps aux voyageurs ?
Ça permet effectivement... Prenons l'exemple d'un Paris-Toulouse, de gagner une heure pour les voyageurs. Mais l'enjeu de la LNSO, c'est pas uniquement un enjeu de grande vitesse pour les voyageurs du TGV. C'est un projet qui permettra de développer les transports du quotidien, les TER, les CER, mais qui permettra également de développer le fret. D'un point de vue environnemental, qui permettra également un report de trafic important entre le trafic aérien de l'aéroport de Toulouse, concrètement, vers le transport ferroviaire qui est beaucoup moins émissif de gaz à effet de serre.
Un des arguments des opposants, c'est aussi de se demander pourquoi ne pas avoir remis en état les voies actuelles. Effectivement, en ce moment, les temps de trajet sont rallongés entre Bordeaux et Toulouse. Parfois, notamment sur l'intercité, les trains ont beaucoup de retard.
Alors, il n'est pas question du tout de fermer la ligne existante. Les travaux de régénération de cette ligne, ils seront menés, il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, transformer une voie existante en une ligne à grande vitesse, ça répondait pas à tous les besoins, notamment celui de la capacité ferroviaire. Et d'autre part, c'est très compliqué, voire impossible, de pouvoir passer une ligne exploitée à moins de 160 km/h, compte tenu de tous les passages à niveau qui existent, à une ligne à grande vitesse pour des circulations à 300 km/h.
Vous parlez de passage à niveau, pourtant j'imagine qu'avec cette nouvelle ligne, il va falloir en recréer. Vous allez aussi ajouter des gares, c'est ça ?
Alors, il y aura des gares nouvelles, à Montauban, Agen, Mont-de-Marsan, donc ça c'est bien prévu. Par contre, sur une ligne à grande vitesse, vous n'avez aucun passage à niveau, de la même manière que sur une autoroute, vous n'avez aucun carrefour. Voilà, c'est le même principe de sécurité.
La question qui se pose aussi sur cette future ligne LGV, c'est son accessibilité. L'État a dû financer le projet par une taxe spéciale d'équipement pouvant aller jusqu'à une vingtaine d'euros prélevée auprès des habitants qui habitent sur le tracé de cette future LGV. Donc, est-ce que ces habitants vont pouvoir monter dans le train ?
La ligne, elle est ouverte à toute la population, donc non seulement ses habitants, mais toute la population française pourra utiliser cette voie ferrée, bien sûr. Ça sera dans le cadre d'un service ferroviaire opéré par la SNCF et éventuellement d'autres opérateurs.
Une note interne de Bercy, donc du ministère de l'Économie et des Finances, a fuité le mois dernier. Selon cette note, l'État pourrait se désengager. Est-ce que ça enterrerait le projet ? On rappelle que l'État finance quand même 40% de cette future LGV.
Alors, aujourd'hui, nous disposons de tous les financements nécessaires pour poursuivre le projet. Encore une fois, dans les délais, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Après, les financements complémentaires qui seront alloués, bien sûr, ils sont nécessaires au projet, mais enfin, c'est une question qui regarde l'État. Moi, je ne peux pas préjuger de la volonté ou de la capacité de celui-ci à financer le projet sur la durée.
Mais dans le cas où les financements seraient retirés, pour vous, ça mettra en danger le projet ?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, pour construire la ligne à grande vitesse, il nous faut naturellement des financements. C'est une condition qui est nécessaire.
Concernant l'opposition à cette LGV, elle est souvent comparée à la 69. D'ailleurs, on retrouve les mêmes militants mobilisés contre le chantier de la 69 sur justement les manifestations anti-LGV. Pour vous, ces deux projets, ils sont comparables ?
Pas complètement. Moi, je suis pas complètement d'accord avec cette assimilation. Mmh. Le projet, enfin, c'est déjà deux modes de transport différents, hein, mmh. et en matière d'émissions effet de serre, ce sont pas des modes équivalents. Il y a un projet ferroviaire qui a aussi des fonctionnalités sur très longue distance, même européenne. Hein, c'est un des enjeux du projet LNSO. Donc voilà. Donc je pense pas qu'on peut complètement comparer de projet.
Et est-ce que les manifestations à venir vous font peur ? Est-ce que ça a déjà retardé des travaux ?
Alors, nous menons d'abord tout un travail d'information pour essayer de démontrer les bénéfices du projet, donc notamment avec des publications sur le site internet. On parlait tout à l'heure de la consultation de la fin de l'année, donc ça sera des opportunités pour démontrer la qualité du projet. Et puis maintenant, vis-à-vis de ce qui se passe sur le chantier, bah, nous prenons toutes les mesures utiles pour que les personnes qui réalisent les travaux puissent les réaliser en toute sécurité et de manière correcte. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés qui compromettent la qualité, le calendrier ou la sécurité des gens qui travaillent sur les chantiers.
Une dernière question. Les opposants ont saisi le tribunal administratif de Toulouse qui va devoir examiner la légalité de l'autorisation environnementale pour la partie haut-garonnaise de la LGV. Vous redoutez une décision d'annulation comme celle qui a été prise pour la 69 en février dernier ?
Non, enfin, nous considérons que nous avons un bon dossier, que nous avons respecté la réglementation et donc nous sommes sereins par rapport à ces contentieux.
D'accord. Merci Christophe Huot. On le rappelle, vous êtes directeur du GEPSO, l'organisme qui gère les grands projets ferroviaires dans le Sud-Ouest. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Écoutez, ici.